Bon mercredi, bienvenue à la VG Mission. Je suis aujourd'hui en compagnie de Maria et on trouvait ça important de vous parler des mythes entourant l'alimentation végétale parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Bonsoir tout le monde, oui. Donc souvent quand on grandit dans l'imaginaire collectif, on a des idées qui sont ancrées sur comment se passent les choses dans l'industrie animale, comment ça se fait qu'on a de la viande dans notre table, du lait dans nos verres. Et quand on s'y intéresse plus, on se rend compte qu'il y a plusieurs mythes vraiment qui sont intéressants à démystifier. Un premier là, qu'on voulait vous lancer, qui nous a surpris, là, nous personnellement, c'est qu'on a parfois l'impression que les vaches produisent du lait pour nous, que c'est en continu, puis qu'on va dans la ferme, elle a le lait qui sort tout le temps. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça?
T'sais, moi, en fait, je pense que c'est la chose que j'ai le plus entendue quand j'étais jeune. Je me faisais dire, il faut que tu boives du lait, premièrement, pour tes os, mais aussi que les vaches en avaient en continu, alors que c'est faux. Oui, la vache va produire du lait naturellement. Oui, elle va le faire comme en fait nous les femmes, quand on a un enfant, on en produit aussi. Mais par contre, c'est pas une quantité qui est illimitée.
Non, c'est ça. Puis le concept clé ici, c'est vraiment que pour avoir du lait, il faut que tu aies un bébé, il faut que tu aies un veau. Sinon, tu produis pas de lait. Donc, dans l'industrie, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment les inséminer artificiellement pour qu'elles puissent avoir des veaux. Mais puisqu'on veut le lait pour les humains et non pour les veaux, on va les séparer de leur maman à la naissance. Donc, c'est quand même une réalité qui est très triste. C'est pas de même partout, je tiens à le dire. Là, il y a beaucoup de producteurs plus locaux où ils vont laisser le veau prendre une partie du lait, puis l'autre pour les humains. Mais quand on est dans une optique de productivité dans les grandes chaînes industrielles, mais souvent on dit non, le veau, toi, tu vas prendre un autre lait, un supplément ou je sais pas, pour laisser le reste aux humains. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai réalisé, parce que dans ma tête, les vaches faisaient du lait quand même.
Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je trouve dommage aussi là-dedans, c'est que, par exemple, une vache n'est pas supposée produire autant que lait qu'elle en produit présentement, mais aussi un coup qu'elle a eu les bébés qu'elle devait avoir, là, un coup qu'elle ne peut plus en avoir de bébés, mais on la tue, la vache, on s'en débarrasse, alors que peut-être qu'elle a encore une espérance de vie de 5 à 10 ans. Fait que dès qu'elle ne peut plus produire de bébés, dès qu'on ne peut plus produire du lait de elle, ben on s'en débarrasse. Ce que je trouve qui est quand même triste au final, parce que, bon, sa vie est quand même considérablement écourtée. Là.
Fait qu'on la voit un peu comme un instrument à lait. On l'instrumentalise pour notre bienfait aux humains. Mais après, quand elle n'est plus productive, quand elle commence à faire moins de lait, on dit, bon, toi, t'es plus assez, on passe à l'autre. Puis ce qui est triste aussi, c'est que ces vaches-là doivent être constamment enceintes. Une fois qu'ils ont leur portée, bon, ils font qu'ils recommencent. Et ça, c'est dur pour le corps aussi, des vaches, à prendre tout ça. Les vaches sont vraiment des animaux très sociables. Ils ont leur cercle d'amis. Ils ont toute une vie intérieure très riche, super intéressante à explorer. Mais dans cette optique de produire du lait, malheureusement, on va souvent imprimer ça, j'ai l'impression.
Oui, puis en ce qui concerne les humains, fameux mythe, parce que c'en est un qui dit qu'on a besoin du lait de vache pour être en forme, pour avoir des os forts, c'est faux. C'est faux. Moi, en fait, là, les études que j'ai trouvées, ils ont tout dit, puis même j'ai demandé à mon médecin, quand t'es un nouveau-né, t'as besoin du lait. Oui, ça, c'est vrai. On peut prendre aussi du lait de notre maman, mais si elle décide de ne pas allaiter, c'est super correct aussi. Oui, on peut en prendre du lait quand on est bambin, nos parents peuvent nous en donner un certain temps. Mais par contre, c'est pas long qu'on n'en a plus de besoin. Un coup qu'on est enfant, là, nos os sont supposés être en masse forte, puis on n'en a plus de besoin de ce lait-là. Et surtout, quand on franchit le cap de l'adolescence adulte, on en a encore moins de besoin.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, les vaches, là, c'est des animaux quand même assez gros. Là, ils ont 4 estomacs. Donc, le lait qu'ils produisent pour leur bébé, mais ils sont destinés à une digestion adaptée à 4 estomacs, à devenir une grosse... un gros corps beaucoup plus grand que nous. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études qui démontrent pourquoi les produits laitiers causent autant d'intolérance chez certaines personnes et des problèmes de santé aussi. Oui, il y a des bienfaits, mais il y a aussi des méfaits qui viennent avec le lait.
Oui, on n'est pas supposé justement en boire. Là.
Non,
On peut, puis tant mieux si ça vous fait, mais si, mettons, vous avez des intolérances et vous en déconflez après les produits laitiers, c'est justement parce que notre corps n'est pas fait pour qu'on en consomme autant.
Non, vraiment. Puis vous avez peut-être déjà entendu ça, mais on est les seuls mammifères sur la Terre qui prennent le lait d'un autre mammifère et qui en boivent à l'âge adulte. D'habitude, tu sais, c'est quand t'es jeune, puis après, t'en bois plus. Puis souvent, on dit, oui, on prend le lait de la vache, mais est-ce qu'il dirait le prendre directement de son corps, corps à corps? Pas vraiment. Donc, T'sais, quand on y pense, c'est un peu comme, ah oui, c'est vrai. T'sais, souvent, les gens sont un peu dégoûtés si on dit, ah, oh, quelqu'un a pris le lait de son épouse quand, mm-hmm. quand elle allaitait, je dis n'importe quoi. Ouais. Mais pourtant, tu prends le lait de la vache, donc...
Oui, c'est ça. Et en fait, ben là, je me considère là-dedans aussi parce que j'en ai bu très longtemps, mais on est un peu spéciste parce que j'ai vu une vidéo à un moment donné que des activistes allaient dans les rues et faisaient boire une nouvelle sorte de lait aux gens qui passaient dans la rue. Et tous les gens étaient comme, oh, wow, c'est tellement bon.
Oui.
Comme si mon lait préféré, c'est quoi? Et puis là, les activistes, ils disent, mais c'est du lait de chien. Il avait mis du lait de chien. Puis là, tout le monde le recrachait, traitait les activistes de dégueulasse. Ils disaient, ça se fait pas, qu'est-ce que vous faites? C'est pas humain, ça se fait pas. Mais pourtant, ils vont boire du lait de vache, puis c'est correct.
Puis ce qui est drôle quand même, c'est que les chiens, tu sais, c'est les animaux de compagnie les plus près des humains et tout. Et on aurait une réticence à boire leur lait, alors que les vaches, oui, mais que dans les faits, on les considère comme plus lointaines, puis qu'on va les manger. Donc bref, c'est beaucoup de réflexions quand même intéressantes qui sont acquises dans la société parce qu'on a grandi avec l'image de la vache dans le pré qui...
De Carmen Campagne.
Qui fournit du lait. Puis moi-même, là, tu sais, quand j'étais petite, on allait à la ferme, puis j'ai même pressé un bain de lait, là.
Ah oui, hein?
Directement, parce qu'il paraît que ça avait des bienfaits ou je sais pas. Mm-hmm. Donc, tu sais, juste pour vous dire que nous aussi, on était dans cette optique-là, mais qu'en réfléchissant, on s'est rendu compte que, OK, non, il y a peut-être plus que ça, finalement.
Oui, et honnêtement, le goût du lait se perd quand même assez rapidement quand on change notre alimentation. Mm-hmm. Quand on se met à consommer du lait végétal, là, peu importe, il existe comme 10 sortes, vous avez en masse le choix, premièrement. Là, mais aussi, on perd rapidement le goût du lait. Mm-hmm. Moi, j'adorais le lait. J'étais vraiment comme tellement un veau. Là. Je ne buvais que ça. Et depuis, j'ai arrêté d'en boire. Puis maintenant, je vois quelqu'un qui en boit. Puis ça ne m'inspire pas. J'ai pas le goût d'en boire. J'ai pas le goût.
Je te comprends tellement. Puis en plus, OK, on a souvent la discussion autour du fromage. Quand on dit je deviens végane ou j'arrête les produits laitiers, les gens sont toujours en train de dire j'adore trop le fromage. Et j'étais exactement comme ça. Okay, moi, la viande, honnêtement, ça me plaisait pas plus que ça, mais le fromage, j'adorais. Et je me disais, oh mon Dieu, non, je pense pas que je pourrais devenir végane, ça va me manquer trop. Mais d'un coup, que tu sais pourquoi tu le fais. Par exemple, tu penses au veau et tout. On dirait que automatiquement, t'as plus envie. Et c'est vraiment... Mm-hmm. C'est vraiment spécial parce que ça t'attire plus. Là, tu vois la pizza fondant avec le fromage dans la rue et même si j'adorais ça puis que je sais que ça goûte bon, je n'ai plus l'envie d'y goûter. Donc, je pense que c'est vraiment un changement de mentalité. Et je tiens à dire qu'il y a des belles options aussi, même du fromage que vous pouvez faire à la maison avec des noix de cajou. Il y en a à l'épicerie. Même chose, les laits, comme Daphné mentionnait tantôt. Donc, il y a plein de belles alternatives là, pour ne pas consommer de produits laitiers.
Oui. Et en fait, consommer des produits animaliers, c'est la même chose qu'une habitude régulière. Et puis, une habitude se perd en 21 jours. Mais c'est la même chose aussi pour notre alimentation. Ça va peut-être être un peu plus dur parce qu'on va avoir le goût. Des fois, on va avoir un steak, on va avoir comme, me semble que ce serait bon. Mais par contre, c'est des habitudes qui se perdent facilement, honnêtement, plus facilement qu'on le pense. Et on vit tellement dans un monde qui a des alternatives que je trouve que ça vaut peut-être la peine de se pencher sur notre alimentation et possiblement considérer là, la changer.
Absolument. Tu sais, c'est pas une privation. Moi, je vois pas ça comme, oh, j'ai enlevé quelque chose à ma vie. Non, c'est au contraire, j'ajoute de la bienveillance, mm-hmm. j'ajoute de la découverte de nouvelles saveurs parce que ça te pousse à essayer des nouvelles choses. Puis de vraiment voir ça comme ça dans le positif, je pense pas que c'est une restriction. Souvent, les gens ils disent, comment tu fais? Mais c'est comme, non, c'est naturel. Ça va de soi.
À 100%. On avait aussi, c'est difficile de manger des protéines en étant végé.
Ça, on l'entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment tu fais pour avoir tes protéines? Tu vas les chercher où? T'es pas en carence de protéines?
Et pourtant, en fait, j'ai jamais autant mangé de protéines depuis que je suis végé. Je sais pas pour toi, mais il fallait que je fasse des recherches pour justement avoir mes protéines parce que j'avais peur d'en manquer moi aussi pour finalement découvrir un monde de possibilités qui fait en sorte que j'en ai jamais autant manger.
Ah, vraiment, il y en a une panoplie. Il y en a dans plusieurs sortes d'aliments qui sont délicieuses. Moi, au début aussi, j'avais ce souci-là. J'étais comme, tu sais, je vais-tu manquer de protéines? Et j'étais allée à un atelier de protéines offert par Cora Loomis, qui est une nutritionniste végane à Sherbrooke. On vous la recommande vraiment. Elle est super dynamique. Elle a plein de bons conseils. Et on avait fait le calcul. parce qu'elle nous avait dit, voici en fonction de votre genre, de votre âge, bref, plein de facteurs pour savoir combien de protéines tu as besoin en une journée, et tu te rends compte que tu les atteins assez rapidement.
Oui, c'est
vraiment pas long. Il y a même une étude du World Research Institute de 2016 qui nous disait que la population générale consomme trop de protéines. Donc, on est loin d'être en manque. Puis juste avec des légumineuses, des noix, même les légumes ont des protéines. Sinon, il y a les graines comme les graines de chanvre, les graines de chia, surtout les graines de chanvre qui ont quand même un des plus hauts taux de protéines qu'un aliment peut avoir. C'est super intéressant et on peut vous garantir que vous n'allez pas en manquer.
Non, c'est ça, parce qu'on se rend compte aussi justement qu'on mange plein de choses au cours de notre journée qui contiennent des protéines, mais nous, on a la mentalité que c'est juste dans la viande. Mais mm-hmm. non, mais non. On a des légumes comme les adamames, qui ont des protéines. Les noix ont pas une poignée de noix, mais ça, c'est plein de protéines. Fait qu'on on l'atteint plus facilement qu'on le pense.
Non, c'est ça. Puis vraiment, tu sais, à plusieurs personnes qui deviennent végétariennes et qui mangeaient pas beaucoup de légumineuses avant ou de noix, puis de la viande, c'était leur principale source de protéines et qui font juste l'enlever. Et là, ça peut être problématique. Donc, c'est vraiment important que vous vous informiez, même que vous consultiez un nutritionniste ou que vous fassiez le calcul de combien vous avez besoin de protéines. Parce que dans ces cas-là, ça peut poser problème. Mais si vous avez déjà des légumineuses dans votre alimentation, mais c'est de dire, OK, au lieu de faire mon pâté chinois avec la viande, je vais le faire avec des lentilles et vous allez avoir des très bonnes protéines et plein d'autres nutriments qui viennent avec.
Et même concernant les légumineuses, on a aussi des mythes là, parce que, bon, ça dit qu'ils sont lourds pour la digestion, en fait.
Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, j'aime mieux pas manger trop de légumineuses parce que ça va être lourd à digérer et tout. » Et si vous n'êtes pas habitué à manger des légumineuses, ça peut l'être au début parce que les légumineuses ont plus de fibres, contrairement à la viande. Et les fibres, c'est vraiment quelque chose de très, très bon pour votre alimentation, pour votre intestin. Il y en a dans les fruits, les légumes, aussi dans les légumineuses. Donc, le corps, s'il n'est pas habitué, oui, il va avoir une période de transition qui est un peu... plus difficile à ce niveau-là, mais encore une fois, le corps va s'habituer et c'est pas lourd. Au contraire, moi, je trouve que depuis que je suis végane, ma digestion va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup moins lourde qu'après un gros repas de viande. Mais ça fait des années que j'ai pas fait ça, mais dans mes souvenirs de manger de la viande, parfois, c'est vraiment lourd après la sensation.
Oui,
là.
On sent pleine, on sent gonflé, là. Mais... oui, je comprends. C'est vrai que les légumineuses, ça peut être dur pour certaines personnes. Ça, j'en suis 100% consciente. C'est vrai que si je mange un gros bol de seulement des légumineuses, pendant peut-être une heure après, je vais me sentir un peu comme un peu gonflée, là, pleine aussi. En fait, comme si j'avais mangé un gros steak. Par contre, ça passe rapidement. Et comme Maria a dit aussi, c'est une habitude.
Ouais.
C'est tout, le corps s'adapte à tout. Et comme j'ai dit, chaque habitude peut être adoptée. Donc,
ouais, c'est ça.
En manger un petit peu par petit peu, puis augmenter sa quantité si on voit qu'on fait le bien. C'est correct d'essayer aussi, puis de ne pas vouloir trop en manger. C'est super correct. Mais rejetez-les pas automatiquement.
Non, c'est ça. Puis je pense que c'est important d'aller graduellement, comme tu dis. Et aussi tenir en compte que, oui, le corps peut s'adapter, mais il y a des personnes, il y a des cas particuliers où les gens ont des intolérances aux légumineuses. Donc, dans cette optique-là, c'est sûr que l'important, c'est de favoriser ce qui est mieux pour vous et pour votre santé.
Oui, et encore une fois, il existe une grande variété de légumineuses. Fait que c'est pas parce qu'une vous fait pas ou vous vous sentez mal après l'avoir mangé que ça va être comme ça pour chaque légumineuse.
Ouais, vraiment. Puis je tiens à dire aussi un petit truc là, les légumineuses, bon, celles qui sont en canne, souvent ça peut être aussi plus lourd à digérer vu qu'ils ont été plus longtemps dans le processus, donc c'est important de très très bien les rincer. Mais sinon, les légumineuses sèches, si vous les faites tremper la veille, plus vous les trempez, plus ça va faciliter ensuite la cuisson et la digestion aussi. Donc vous pouvez aussi vous renseigner à ce niveau parce que la façon de les apprêter, de les préparer, ça peut aussi avoir une influence.
Oui, et avant d'aller en pause, on va vous parler vite des suppléments qu'un végétarien ou qu'un vegan peut prendre parce que, oui, il faut en prendre. Et moi, mes deux principales, tu me corrigeras si c'est pas ça pour toi, mais moi, c'est la B12 et la vitamine D.
Absolument, les mêmes pour moi. Mais en fait, la vitamine D, sa principale source, c'est le soleil. Mm-hmm. Et c'est drôle, c'est même pas une vitamine comme les autres parce que c'est ton corps qui va un peu la produire, la générer lorsque, par exemple, elle a du soleil. Mais oui, on en retrouve aussi dans les produits laitiers. Donc, quand on est végétalien, on est plus propice à avoir des bas taux de vitamine D. Mais étant au Québec avec des hivers aussi intenses, très peu de luminosité, même les gens omnivores risquent de manquer de vitamine D.
C'est
donc,
vrai.
C'est un supplément qui est plusieurs personnes devraient prendre, surtout de octobre à avril, mais même en tant que végétalien, c'est bien d'en prendre toute l'année.
Constamment.
Parce que c'est une vitamine super importante et avec les conditions qu'on a ici, on risque d'en manquer.
Oui, et c'est une vitamine, donc c'est pas grave. T'sais, vous faites mieux d'être sûr de ne pas en manquer et de prendre un comprimé par semaine. C'est pas, ben, dépendant de la dose.
Dépendamment de la dose.
Il y en a qui en prennent tous les jours, il y en a qui en prennent par semaine, comme moi. Mais dans tous les cas, c'est de la vitamine. Donc, c'est pas grave si vous en avez un petit peu plus. Parce que cette semaine-là, vous avez pris plus de soleil, ou etc. Là.
Non, c'est ça. Puis, vous pouvez pas trop en faire. T'sais, le soleil, le corps, il est sage. Là. Il va le savoir. Donc, vraiment important à considérer. Vitamine 12, c'est aussi quand on est végétalien, mais on peut en manquer plus. Mais ça, c'est vraiment pas parce que les animaux, la viande a la vitamine B12. C'est une vitamine qui vient un peu des bactéries, du sol. Et avant qu'on ait une agriculture et un système aussi hygiénique, on va dire, on en retrouvait aussi dans les légumes et tout. Maintenant, on n'en a pas, mais les animaux, la nourriture qu'ils mangent lorsqu'ils sont élevés pour la viande, ils ont de la B12 en supplémentation, eux aussi. Donc, c'est pour ça qu'on en retrouve des bonnes quantités dans la viande. Mais quand on n'en mange pas, c'est important de venir en chercher aussi selon la dose, mais un comprimé semaine. Moi, c'est les dimanches. Chaque fois que je me réveille le dimanche, je suis comme B12.
Ah oui, hein?
Oui.
Ben, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des comprimés de plusieurs doses, là, si je peux dire. Les vitamines D sont super fortes, fait que j'en prends une fois par semaine. Mes B12 sont moins fortes, fait que j'en prends une par jour.
OK.
Mais c'est ça, c'est tout dépendant, là, parce qu'ils en vendent littéralement de, je pense, comme toutes les doses. Fait que c'est à vous de voir avec laquelle des méthodes vous êtes le plus à l'aise.
Non, c'est ça aussi, en parler avec votre médecin ou pharmacien, pharmacienne.
Oui.
Moi, c'est le contraire. Moi, c'est vitamine D tous les jours, vitamine B12 par semaine. Donc, c'est vraiment selon les préférences de chacune.
Oui, c'est ça. Et à l'exception, dans le fond, de ces deux vitamines-là, tous les autres nutriments, ils peuvent être obtenus dans une diète végétale.
Oui, et ça, c'est vraiment un consensus là, de plusieurs associations de diététique, de nutrition dans le monde, que bien équilibrer une alimentation végétalienne fournit tous les nutriments nécessaires.
Sur ça, on prend une petite pause et on vous revient dans quelques instants.
Le sommeil me freine, mes nuits ne sont que des siestes. Mes problèmes traînent et mon appétit me presse. Je prendrai le temps, je prendrai le temps. Le poids de mes chaînes, je voudrais get it off my chest. Je vous laisse le fame, puis garder tout le reste. Je prendrai le temps. Les saisons dans ma valise. We'll be right back.
bon retour. Donc, Maria et moi, on voulait enchaîner sur le soya.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, je pense que c'est le plus gros mythe là, entourant l'alimentation végétale, là, c'est notre consommation de soya. Entre autres, que bon, ça contient beaucoup d'estrogènes et que là, pour les femmes, ça en fait trop. Et puis que pour les hommes, ça serait pas bon parce que c'est, elles ont, c'est la testostérone, c'est pas l'hydrogène. Fait que là, ça leur pousserait des seins. Là, puis tous ces genres de mythes là,
ouais,
qui
vraiment.
Sont complètement faux. Là. Donc, en fait... selon plusieurs études, là, c'est normal d'avoir ces inquiétudes-là. Par contre, faut savoir que le soya, c'est pas de l'estrogène, c'est du phytoestrogène. Et que ce n'est pas la même chose et que ça n'a pas la même valeur. En fait, ça, c'est question, on se fie maintenant là, aux estrogènes. C'est des hormones sexuelles, évidemment, impliquées principalement dans les fonctions de reproduction. Mais aussi la cognition, la santé cardiovasculaire et osseuse. Les femmes ont des niveaux sanguins d'estrogène nettement plus élevés que les hommes, quand on le sait, et eux, des niveaux de testostérone plus élevés que les femmes. Bon, mais bien que l'estrogène, c'est une hormone essentielle pour plusieurs fonctions dans le corps, les niveaux trop élevés ont en effet été associés au développement de certaines maladies, dont le cancer du sein. Fait que c'est vrai qu'un niveau d'estrogène, en fait, pour les femmes, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de plus bénéfique, mais puisque les phytoestrogènes ont une structure très semblable à celle de l'estrogène, il y en a certains qui ont la crainte, justement, que consommer du soya, ça puisse imiter les effets de l'estrogène et augmenter les risques associés à des taux élevés de cancer ou de maladie, ou etc. Par contre, ces craintes sont non fondées parce que même ça peut sembler logique vu que ça porte dans le fond une partie du même nom. Là. Toutes les études qui se sont penchées sur les questions ils ont indiqué que les phytoestrogènes dans le soya, ils n'agissent pas de la même manière que l'estrogène dans le corps.
Mm-hmm.
Et en fait, il y a une nutritionniste qui donne un exemple que je trouvais ça super intéressant. C'est par exemple quand on veut débarrer notre porte et qu'on a un trousseau de clés et qu'on se mélange toujours entre deux clés, car les deux clés, ils rentrent dans la serrure, les deux, mais il y en a juste une qui va la débarrer. Et puis, elle donnait cet exemple-là pour dire qu'évidemment, la phytoestrogène et l'estrogène, bon, il y a une raison pourquoi qu'ils ont la même finition de nom, là, c'est parce que oui, ils ont des similitudes, mais sont vraiment différentes. Et en fait, les phytoestrogènes, il y aurait plutôt des effets protecteurs pour la santé, au contraire de consommer trop d'estrogènes, là, parce qu'ils ne se fixent pas aux mêmes récepteurs d'estrogènes qui sont problématiques dans le cas du cancer. Et dans le fond, sont 100 fois moins importantes que les estrogènes produits dans le corps. Fait qu'au niveau des récepteurs dans le sein, les phytoestrogènes, ils vont avoir une action anti-estrogénique, ce qui est bon en soi, et ils vont donc limiter la prolifération des cellules cancéreuses. Fait qu'en gros, la consommation du soya est en fait associée à une diminution du risque du cancer du sein chez la femme et même une diminution du risque de récidive et de mortalité pour les survivantes du cancer du sein, ce qui est super, en fait, ce qui est super bien, ce qui est super bénéfique. Et par ailleurs, il y a plusieurs études qui ont donc documenté, pardon, d'autres effets bénéfiques liés à la consommation de produits de soya. Ça serait aussi associé à une plus faible incidence de maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, syndrome métabolique et certains cancers, dont celui du sein, de la prostate et des ovaires. Fait qu'encore plus chez la femme qui traverse des ménopauses, la consommation de soya, ça peut avoir un effet bénéfique au niveau des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Et pour les hommes, les phytoestrogènes, ça va pas interagir avec leurs hormones sexuelles. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller acheter une brosse à notre chum. Là. Ça va bien aller. C'est vraiment comme un gros mythe.
Ouais, non, vraiment. Puis j'aime beaucoup ta métaphore, mais celle de la nutritionniste, de dire c'est comme deux clés, mais ils ont des fonctions différentes au final. Donc, il y en a une qui, oui, peut augmenter le risque de cancer du sein, mais l'autre, non. Et il y a le docteur Michael Greger. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est très calé dans alimentation à base de plantes et il démystifie beaucoup les mythes par rapport au soya aussi. Donc, si vous voulez aller voir, ses ressources sont super intéressantes, là. Mais il soulignait notamment une étude qui disait que 90% des patients qui avaient le plus haut taux de... Comment on appelle ça?
Phytoestrogène.
Phytoestrogène de soya après 5 ans, mais étaient encore vivantes, les patientes, alors que c'était seulement la moitié de ceux qui avaient un taux plus bas et qui survivaient.
Ah ouais,
donc,
hein.
c'est quand même frappant comme comparaison.
Oh, oui, c'est très considérable.
Mm-hmm.
Et c'est ça, en fait. Moi, je trouve que le soya, c'est un produit extraordinaire. Je ne recommande pas nécessairement d'en manger 4 fois par jour. Là. Il y a plein d'autres protéines qu'on peut aller chercher sans nécessairement consommer du soya. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'en consommer.
Non, c'est ça, absolument pas. Puis il y a beaucoup de façons de l'intégrer au quotidien. Donc oui, il y a le tofu, mais si vous aimez pas ça, il y a le lait de soya, il y a le tempeh qui peut être un aliment à découvrir aussi, peut-être parfois difficile à appréhender au début, mais qui peut être très bon. Sinon, les sédamame, ça s'ajoute très, très bien dans des salades. Même moi, parfois, j'en ajoute dans mon gruau parce que ça permet d'avoir une petite protéine de plus le matin pour commencer. Là. Donc, il y a vraiment plein d'options pour vous.
Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment pas en avoir peur. Et concernant le fait que les produits de soya sont remplis d'OGM, parce qu'en tout cas, moi, j'allais souvent entendu aussi, là. Le sujet des OGM, c'est sûr que c'est un sujet qui est plus picky, en fait, mais il faut pas oublier, en fait, que la majorité des choses qu'on mange en contiennent. Là, par exemple, tant qu'on mangera pas, comme Maria et moi, on avait parlé dans une autre émission, plus proche de la terre, là, en fait, on en a quasiment partout.
Non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la majorité du soya avec le plus d'OGM, le plus transformé, il est destiné aux animaux, pas à la consommation humaine. Le tofu qu'on a ici au Québec, d'habitude, c'est celui qui est le meilleur pour nous, alors que celui qui pourrait porter plus atteinte, mais c'est celui qui va se retrouver finalement dans la viande d'une façon ou d'une autre.
C'est ça, en fait, c'est vraiment plate à dire, là, mais après avoir lu plusieurs études, plusieurs livres de personnes dans ce milieu-là qui ont écrit, en ce qui a trait aux produits de soya que nous consommons en particulier, là, fait, je parle de tofu, tempeh, miso, etc., les semences de soya destinés à la consommation humaine ne contiennent aucun OGM. Mm-hmm. C'est vraiment un gros mythe, je pense, qui nous entoure. La plupart de nos semences de soya n'en contiennent pas, mais malheureusement, les cultures destinées à l'alimentation des animaux d'élevage en ont.
Automatiquement.
Mais
oui, voilà. Et vous pourrez retrouver aussi sur les emballages, les informations à Sherbrooke qu'il y a une entreprise qui produit du tofu Soyexpert. Donc, vraiment, c'est du bon tofu, du bon soya. Et on vous recommande absolument.
Oui, et sinon, si pour une raison quelconque, là, vous mangez encore des produits d'animaux, ce qui est correct aussi, là, il y en a des élevages qui produisent là, l'alimentation sans nécessairement mettre des OGM, mais c'est des petites fermes de votre voisin d'à côté. Là. Ça sera pas... dès que vous allez à l'épicerie, malheureusement, votre viande risque presque tout le temps, en tout cas, je veux pas trop m'avancer, mais même tout le temps de contenir des OGM.
Ouais.
Fait que sur ce, qu'est-ce qui conclut notre émission sur les mythes? Évidemment, il y en a plein d'autres. On en aurait pour 14 missions,
ah,
je pense, à toutes les démystifier. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Et on a un super beau concours. Là je vais juste le dire tout de suite, on est le 20 avril 2022. Là. Mais on a un super beau concours là, ce vendredi, en fait, là, pour faire tirer des billets pour le nouveau documentaire qui s'appelle Animal.
Oui, il va diffuser en fait à la Maison du cinéma mais dans les prochains jours, mais particulièrement le vendredi 22 avril, Journée de la Terre en plus à 15h. L'association VG sera là pour une discussion et on a un concours sur notre page Facebook pour remporter une paire de billets. Donc, allez participer.
Oui, bien, bonne soirée.
Bonne soirée.